Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Carnet de Région, le magazine hebdomadaire et collaboratif préparé et proposé par les radios associatives du Languedoc-Roussillon. Cette semaine, la rédaction en chef est assurée par Radio Bartas à Florac. Au sommaire de cette édition, 48FM vous propose un sujet sur la victoire historique de la gauche suite aux élections départementales en Lozère. Nous irons ensuite à Montpellier avec Radio Aviva qui, à l'occasion du lancement de la Semaine de l'Industrie, a rencontré le recteur de l'Académie de Montpellier, Armand Lepec-Muller. Toujours dans le cadre de cette Semaine de l'Industrie, l'école des mines d'Alès organisait la journée de la recherche. Radio Grille Ouverte était sur place. Et enfin, après la Semaine de l'Industrie, nous vous proposons un sujet de RCF Pays d'Aude sur les premières journées lycée 21 pour la promotion de l'éducation à l'environnement dans les établissements scolaires.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Pyrénées-Orientale, Gare,
Lozère, Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.
Pour la première fois de son histoire, le conseil départemental de la Lozère a basculé à gauche dimanche soir après le second tour des élections départementales. Ce jeudi, Sophie Pantel est devenue la seconde lozérienne à présider le département après Jeannine Bardou dans les années 80 et 90. Ludovic Terol de 48FM revient pour ce carnet de région sur cet événement historique.
Historique, c'est le mot qu'avaient ce jeudi à la bouche tous les élus de gauche qui ont fait basculer le département. Car c'est bien simple, le département de la Lozère n'a jamais été gouverné par la gauche et les élections de dimanche sont doublement historiques car la Lozère est le seul département de France qui bascule de la droite à la gauche. Écoutez le divers gauche Alain Bertrand, sénateur de la Lozère, au soir de ces élections.
Ce soir historique pour la Lozère, tout court, puisque les électeurs... pour le moins, ont voulu balayer la majorité départementale, puisqu'ils estiment que la majorité départementale ne fait pas bien son travail. Voilà. Donc les électeurs, ce qu'ils ont voulu, c'est un changement, du renouveau, certes en s'appuyant sur des partis ou sur des candidats qui appartiennent au Parti communiste, d'autres au Parti socialiste, d'autres au Modem, d'autres sans étiquette, et ils ont voulu le changement. Voilà. Ce qui est historique, c'est effectivement que l'UMP et la majorité départementale aient été balayés au moment même où en France il y a une vague au bénéfice de la droite traditionnelle, UMP et UDI.
Et donc jeudi, la nouvelle conseillère départementale du canton de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunaise est devenue présidente après tout de même des tractations entre forces de gauche, pas toujours simples.
Après cette belle victoire de la gauche donc aux élections départementales et après des discussions qui sont normales puisque c'est la première fois que nous gagnons le département, nous avons trouvé un accord intelligent entre les différentes parties et un accord surtout en faveur du département de la Lozère et pour répondre aux attentes des Lozériens et Lozériennes qui sont énormes et on l'a mesuré chaque jour pendant notre campagne sur le terrain. Ce que nous partageons tous, c'est vraiment de rendre ce département dynamique, de pouvoir répondre à ce déséquilibre territorial entre l'Ouest et l'Est, d'apporter de vraies réponses au quotidien des Lozériens et des Lozériennes. Moi, la seule chose que je retiens, c'est cette union, cette volonté commune qui nous anime de faire réussir la Lozère. Et je crois qu'on a de la chance parce qu'on a d'un côté le sénateur qui pourra faire le relais à Paris et de l'autre côté, on a le président Larry qui s'est engagé à nous soutenir avec les moyens financiers de la région et aujourd'hui, les moyens, ils sont à la région.
Et alors que les tractations traînaient en longueur, c'est le président de la région Languedoc-Roussillon, Damien Larry, qui est venu en personne débloquer la situation.
L'histoire ou l'historique, c'est plutôt que les électrices et les électeurs aient voté à gauche. Ça, c'est historique. Après, l'accord, bien sûr qu'il fallait le faire, sinon on pouvait laisser, avec la majorité, on pouvait laisser le département encore à la droite. Après, moi, j'aurais pas compris, voilà. Donc j'aurais pas compris, ni l'un ni l'autre, ni les troupes des uns ni les troupes des autres. Moi je pars d'ici avec la satisfaction d'avoir pu ce matin autour d'une table faire un trait sur le passé, faire que M. Bertrand, M. Suot et leurs amis travaillent avec les amis de Mme Pantel qui sont également de gauche et travaillent dans la sérénité et travaillent pour la Lozère. Et c'est cet accord-là qui m'intéresse. Mais l'accord, il n'y a pas d'entourloupe, chacun a son rôle, tout le monde y trouve son compte. Pour le bien, je le répète, de cette population qui mérite d'avoir voté à gauche, qui mérite d'être respectée.
Et pour célébrer cette victoire du seul département de droite à basculer à gauche, le Premier ministre Manuel Valls viendra en Lozère jeudi prochain. François Hollande est lui aussi annoncé prochainement.
La cinquième semaine de l'industrie à l'initiative de l'État a été lancée le 30 mars dernier et se poursuivra jusqu'au 5 avril. L'objectif de cette semaine est de mettre en valeur la diversité des métiers liés à l'industrie et d'inspirer des vocations. Un objectif qui prend particulièrement sens à Montpellier et en Languedoc-Roussillon, région faiblement industrielle. À Montpellier, la semaine a été lancée au village de l'industrie dans le quartier Odysseum. Armande Lepec-Müller, recteur de l'Académie de Montpellier, était présente lors de l'ouverture au micro de Marion Doudin pour Radio Aviva. Elle explique pourquoi la semaine de l'industrie est aussi un enjeu éducatif.
Nous visitons ce matin ce village avec monsieur le préfet. Parce que la semaine de l'industrie, c'est un très très bon enjeu au niveau de la région Languedoc-Roussillon, puisqu'on le sait aujourd'hui, le Languedoc-Roussillon est plutôt organisé autour d'une économie préventielle et a besoin en effet que l'on soutienne cette politique de développement des métiers, évidemment des métiers liés à l'industrie, on le voit ici, l'industrie chimique, l'industrie, la mécanique, évidemment aujourd'hui. Dans le même temps aussi, nous avons beaucoup de métiers liés à l'agro-environnement, l'agroalimentaire. Et donc, nous sommes vraiment mobilisés. Aujourd'hui, c'est déjà un bassin d'emploi. Mais c'est vrai que l'économie est plutôt organisée sur l'économie présentielle, on le sait, un petit peu moins sur l'économie productive. Mais nous avons encore quelques bastions qui sont sur l'économie productive et donc sur l'industrie. Mais c'est vrai que, par exemple, y compris dans les formations en aéronautique, nous avons des liens particulièrement forts avec Airbus Hélicoptère, qui n'est pas très éloigné. Et donc, il est important aussi qu'on puisse, dans le cadre de l'enseignement supérieur comme de l'éducation nationale, donc l'enseignement scolaire, donner la passion pour nos jeunes des métiers de l'industrie.
Voilà, c'était Armande Lepec-Müller, recteur de l'Académie de Montpellier. La semaine de l'industrie se poursuit donc jusqu'au 5 avril. De nombreuses manifestations sont organisées à l'occasion à Montpellier et dans la région. Pour en connaître le programme, rendez-vous sur le site de la Chambre de commerce et de l'industrie, cci.montpellier.fr. C'était un sujet de Gilles Geoffrey et Marion Doudin pour Radio Aviva. Toujours dans le cadre de la semaine de l'industrie, l'école des mines d'Alès proposait le 1er avril une journée de la recherche. Le directeur de l'école des mines, Bruno Goubert, explique le sens et la portée de cette initiative au micro de Radio Grille Ouverte.
Le ministère de l'Industrie organise au niveau national, donc sur la France entière, des semaines de l'industrie qui sont des moments où je crois que l'essentiel c'est d'essayer de donner une image différente de l'industrie, de la rendre séduisante, d'arrêter de casser ce mythe d'une industrie sale, polluante, bruyante, exploitant les travailleurs, etc. etc. C'est pas vrai. Et cette industrie, pour attirer les jeunes, c'est-à-dire le futur, a besoin de changer son image. Donc c'est ça l'essentiel de la semaine de l'industrie, avec différentes manifestations. Et pour une école comme l'école des mines d'Alès, qui est une école dont l'objectif essentiel, c'est de former des cadres pour l'industrie. Donc vous savez qu'on organise un certain nombre de manifestations, dont la journée de la recherche. Parce que la recherche, notamment celle qui se font à l'école des mines d'Alès, est une recherche dite orientée, c'est-à-dire c'est une recherche contractuelle. Contractuel, ça veut dire qu'il y a des industriels ou des institutions qui financent nos travaux de recherche et dont l'objectif est d'être facilement, on va dire, applicable. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les résultats des recherches qui sont menées à l'école des mines d'Alès voient leur réalisation concrète. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il n'y a pas d'opposition, voire où il y a une synergie entre les recherches menées à l'école des mines d'Alès et le développement de l'industrie française qui ne se fera que par l'innovation, il est tout à fait naturel que la journée de la recherche soit dans le cadre de la semaine de l'industrie. S'il n'y a pas de recherche, il n'y aura plus d'industrie.
À l'occasion de cette journée de la recherche, les 54 doctorants que compte l'école des mines d'Alès avaient à présenter leur thèse en 180 secondes. À l'occasion de ce concours national, les thésards doivent retranscrire en moins de 3 minutes toutes les données de leur recherche et ce dans les termes les plus clairs possibles pour permettre à un public non averti de comprendre les sujets les plus complexes, comme la thèse de Chloé Vincent, le comportement au feu des matériaux de l'habitat que nous vous laissons découvrir.
Au cours des 40 dernières années, les matériaux comme le bois ou les métaux traditionnellement employés dans nos habitations ont été progressivement remplacés par des matériaux composites à matrice polymère, autrement dit les plastiques. Les plastiques sont omniprésents dans nos maisons et leur composition est propice à un départ de feu et un développement rapide de l'incendie. Alors, pour comprendre l'inflammation de ces matériaux, mes travaux de recherche s'appuient sur une approche combinant expérience et modélisation à échelle croissante. Ça consiste en quoi ? Eh bien, pour faire simple, imaginons ma thèse comme étant une succession de 4 poupées russes. Chaque poupée représente des tailles d'échantillons. La plus petite poupée russe correspond à la matière première, comme les granulés ou les poudres par exemple. La seconde poupée correspond à cette même matière première, mais transformée sous forme d'éprouvettes normées. Ces deux premiers niveaux sont bien connus par les chercheurs. En effet, des appareils de mesure existent et permettent de caractériser la dégradation thermique d'un matériau. Mais ils sont peu représentatifs de la réalité. En revanche, les données scientifiques pour les grandes tailles d'échantillons sont encore masquées par une épaisse fumée noire. Et il est donc difficile de connaître la combustion réelle d'une table, par exemple. Alors, afin de désenfumer cette zone, j'ai développé la troisième poupée russe au moyen d'un appareil de mesure capable de caractériser la dégradation thermique d'un matériau tout en étant représentatif de la réalité. Cet instrument de mesure se prénomme le panneau radiant. Il ressemble à un maxi radiateur de 2 mètres carrés de surface, émettant un rayonnement infrarouge avec une puissance de 120 kW, ce qui représente environ 120 fois la puissance de votre four de cuisine. Ces importantes dimensions vont permettre l'inflammation de grandes tailles d'échantillons jusqu'à 1 mètre carré environ. Ainsi, les données obtenues au panneau radiant rendront la simulation d'une maison en feu plus précise. Enfin, je terminerai par me souhaiter pour ces 2 dernières années de toujours rester dans le feu de l'action.
Voilà, en moins de 3 minutes, tous les auditeurs de ce carnet de région auront compris la thèse de Chloé Vincent, doctorante de l'école des mines, qui défendra les couleurs de son école le 29 avril prochain à Montpellier lors de la finale régionale de Ma thèse en 180 secondes, avant de peut-être concourir à la finale nationale le 3 juin à Nancy. C'était un sujet réalisé par Yves Defago pour Radio Grille Ouverte. À présent, cap sur l'éducation à l'environnement dans les lycées, avec ce mardi 31 mars, les premières journées départementales lycée 21 organisées dans la région Languedoc-Roussillon. Pour nous en parler, Boris Landsberger était organisateur de la journée audoise et animateur à Géode, le groupe d'éducation à l'environnement de l'Aude. Un reportage de Nathalie Dessos pour RCF Pays d'Aude.
Ce sont des rencontres pour permettre aux lycées qui sont engagés dans le développement durable d'échanger leurs expériences, leurs projets, leurs pratiques, et aussi pour les lycées qui n'ont pas débuté, qui ne sont pas engagés encore sur des projets liés au développement durable, dans le cadre du programme Lycée 21 qui a été impulsé par la région, la DRAF et le rectorat. Donc c'est un programme qui existe déjà depuis quelques années, qui permet aux lycées de mettre en place des projets. C'est des financements, c'est un dispositif financier. Donc il y avait déjà des choses qui avaient place, mais justement il y avait des manques de moyens, il y avait manque d'appui technique, méthodologique, financier. Donc ce programme, il est venu structurer un petit peu ces démarches.
Et une association comme la vôtre, Géode, le groupe d'éducation à l'environnement, est-ce que vous êtes un des maillons de la chaîne ? Est-ce que éventuellement vous pouvez donner un coup de main à un établissement qui se lance ?
Oui, complètement. Voilà, c'est pour ça. Nous, on a à la fois un espace d'échange, un lieu ressource pour les lycées qui souhaitent trouver des intervenants, des associations spécialisées dans des domaines ou qui veulent avoir plutôt un accompagnement méthodologique, c'est-à-dire pour réfléchir à la mise en place de l'agenda 21, de la démarche de développement durable dans leur établissement.
Peut-être des projets tout bêtes, tout basiques, comme le tri des déchets.
Le tri des déchets, ça peut être aussi le travail sur l'alimentation à la cantine, ça peut être sur l'économie d'énergie, l'économie d'eau. Mais si l'enjeu est par exemple sur les problèmes de réussite scolaire, on peut utiliser le développement durable comme un levier pour justement permettre aux élèves de s'améliorer aussi. Donc c'est pas quelque chose de uniquement environnemental, un développement durable, c'est le social, c'est l'économique, donc il faut le lier à l'ensemble des composantes de l'établissement.
Dans notre département de l'Aude, pour des bonnes idées d'éducation à l'environnement, contactez Géode, www.geode.org.
Voilà, c'est la fin de ce carnet de région. Merci de l'avoir suivi et merci à toutes les radios associatives qui ont collaboré à sa création. À la semaine prochaine.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.